Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Marianne Saint-Gelais.
J'étais pas fière de mes médailles. Je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité. J'ai absolument rien.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 40 de ce lundi 26 février, en compagnie des gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume.
Salut Gérard.
Nous avons Simon-Olivier Lorange, ça fait longtemps. Salut Simon-Olivier.
C'est vrai, ça fait trop longtemps.
On s'ennuyait
trop
énormément.
Mais salut.
Et pour le 98.5 FM, Stéphane Roy qui est là. Salut Stéphane.
Salut les gars.
Bon, les gars, tellement de choses à jaser aujourd'hui. On va se parler de Matt Rempe, le gars des Rangers de New York qui prend plaisir à donner des mornifs et des taloches et recevoir quelques mornifs également. Je vais avoir votre point de vue là-dessus. On va en parler un petit peu plus tard. On va parler des Jets de Winnipeg qui ont un peu discuté à vendre du ticket présentement du côté de Winnipeg. On va se parler de Chris Chelios qui a eu sa cérémonie pour voir le numéro 7 retiré avec les Blackhawks de Chicago. Mais c'est une soirée qui était saupoudrée de Patrick Kane à Chicago. C'était son grand retour. Ce fut tout simplement sensationnel. Et on va se parler également de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Ouf, une chance, j'ai pris une note.
Bravo.
Merci. Qui diminuera son calendrier de 68 à 64 matchs. Je me suis pris une note là avant qu'on se parle du Canadien. Là. Je me suis pris une note. Je me suis dit, avant, on disait qu'ils étaient soft. Là, est-ce qu'on va dire qu'ils sont soft puis en plus, ils sont pas à s'entraîner?
Oh! Ton meilleur stock dans l'intro.
Non, mais écoute, c'est assez incroyable. Ceci étant dit, on va se parler du prochain match pour le Canadien, c'est les Coyotes de l'Arizona. Avant qu'on se parle de la Sainte-Flanelle, allons voir ce qui se passe avec nos Coyotes de l'Arizona. Guillaume, t'étais là, t'étais au point de presse.
C'est exact.
Donc, j'ai marqué, je vais lire la phrase intégrale que j'ai marquée dans notre plan de match, des nouvelles de la longue traversée du désert de l'Arizona.
C'est très bon.
C'est quoi, 12 défaites de suite?
Exact.
Ça va bien?
Oui, exact. Ben, heureusement, on a André, André Tourigny comme entraîneur-chef qui est toujours imagé et coloré pour nous expliquer ce qui se passe. Donc, il est arrivé quand même avec sa bonne humeur habituelle, avec son message qui était essentiellement j'ai dit pas mal tout ce que j'avais à leur dire. Donc, le rendu là, ça va venir vraiment organiquement le retour. Mais bon, il essaie de mettre tout ça en perspective. L'autre chose qui m'a marqué, c'est j'ai pu m'entretenir avec Bill Armstrong, le directeur général des Coyotes, pendant l'entraînement. C'est un entraînement optionnel. Les Coyotes sont arrivés tard quand même hier soir à Montréal. Ils arrivaient de Winnipeg. Alors, pendant l'entraînement, très léger, donc Armstrong, on se parle. Et la discussion va dans toutes les directions. Et à un moment donné, il se met à me dire, il me parle de son désir de gagner, tout ça. Puis il dit, ça fait 30 ans ici qu'on n'a pas gagné. Ici, en parlant de l'Arizona, puis je dis, ici aussi, ça fait 30 ans. Puis là, je lui pointe la bannière de 92-93. Il dit, c'est la dernière fois. À mon grand étonnement, il était pas au courant. Puis là, il me dit, est-ce que c'était l'année de Ed Rodden? Et là, de tous les gars qu'il pouvait nommer de cette équipe-là, j'ai vraiment été surpris. Et il commence à me raconter, il dit, parce que chez moi, j'ai une photo sur laquelle il y a Ed Rodden, Gary Lehman, Kirk Muller et Paul DiPietro qui sont autour de la Coupe Stanley. Et c'est ma photo de hockey préférée parce qu'il dit, les quatre sont autour de la Coupe et les quatre ont chacun quelque chose, un œil au beurre noir, une coupure, un plâtre, peu importe. Ils ont tout quelque chose. Et moi, je dis tout le temps, mes joueurs, c'est ça que ça prend pour gagner. Et il dit, là, malheureusement, en ce moment, je sens qu'on s'éloigne de ça, de bloquer les tirs, de sacrifier de tout ça. Mais il dit, cette photo-là, c'est ma préférée. Donc, je ne m'attendais pas à me faire parler d'Ed Rodden aujourd'hui.
Surtout de manière aussi inspirante.
Oui, exact.
Exactement, comme modèle de détermination.
Ben oui, exact. Mais il était bon, Ed Rodden.
Oui,
alors,
quand même.
La solution des Coyotes passe par Ed Rodden.
Ed Rodden, bon, écoute, c'est la solution. Mais Simon-Olivier, mine de rien, ce club-là n'arrache, on en parlait, 12 défaites de suite, mais quand même, on a livré un bon match contre les Jets de Winnipeg. Ce que ça veut dire, c'est que si tu prends ce club-là à la légère, malheureusement, ils peuvent te faire payer le prix quand même. Ils ont du talent offensivement. C'est juste que c'est jeune, on manque d'expérience, on manque de... Je parle-tu du Canadien? Je parle des Coyotes? Oh non, je parle des Coyotes. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent te faire mal quand même.
Ben, en fait, c'est deux équipes dont le cheminement se ressemble présentement. C'est-à-dire, évidemment, pas sur le plan d'organisation, parce que le Canadien pourrait acheter les Coyotes 5 fois, puis le Canadien n'a pas 20 millions en fausse masse salariale. Mais, je veux dire, sur la glace, c'est deux équipes qui ont connu... En fait, les Coyotes, surtout, ont connu un meilleur début de saison que le Canadien. Et là, présentement, la chaîne a débarqué probablement encore plus qu'à Montréal, comme tu disais, 12 matchs sans victoire, 10 défaites en temps réglementaire là-dessus. C'est pas facile, l'Arizona. C'est présentement ce qui se passe. Eux autres aussi, les blessés, là, ils ont perdu peut-être Clayton Keller. Je sais pas s'il va jouer demain.
Ouais, point d'interrogation.
Point d'interrogation aussi. Et là, c'était quoi la question de base? Je suis perdu dans ma conférence sur les Coyotes.
Peuvent
faire mal, peuvent surprendre, comme le Canadien peut surprendre encore des bonnes équipes. C'est dur à croire récemment, mais ça peut encore arriver. Le Canadien s'était fait surprendre en Arizona, avait joué un très mauvais match au mois de fin octobre, début novembre. Et oui, le Canadien, présentement, n'est pas dans une position pour prendre personne à la légère. En fait, depuis une semaine, les 7 derniers matchs, on va en parler tantôt parce qu'il y a beaucoup de positifs, mais au cours des 7 derniers matchs, le 31e club de la Ligue, c'est les Canadiens. Et le Canadien et les 32e, c'est les Coyotes de l'Arizona. Ah. Le Canadien qui a gagné un seul match de plus. Alors, voilà, ils ne sont pas vraiment en mesure de prendre personne à la légère, surtout pas les Coyotes.
Tout un duel à prévoir entre le Canadien et les Coyotes de l'Arizona. Donc, mardi. Stéphane, je veux savoir une chose. Martin Saint-Louis a parlé. Il dit, tu sais, c'est toujours plus facile d'être prêt, d'être vif d'esprit contre les grosses formations. Écoute, si t'es pas vif d'esprit contre les Coyotes, ça se peut que les Coyotes t'arrangent le portrait assez rapidement, même si t'es à la maison, même si t'es à domicile.
Ben exactement. Puis c'est une tendance qu'on a remarquée avec le Canadien depuis une couple d'années. Là où je veux en venir, c'est que on joue de bons matchs contre souvent, de bons matchs contre de bonnes équipes et contre les équipes de notre niveau. C'est comme si on n'a pas la maturité pour les prendre au sérieux. Donc on se fait souvent avoir par des clubs moins forts. Et puis, mais ça, c'est le signe d'un club jeune qui pense que ce soir, ça va être facile. Les boys, on joue contre les Coyotes. Donc, probablement que les Coyotes vont penser à la même chose aussi sur le bord. Ben, c'est deux équipes, comme vous avez dit, gars, qui se ressemblent beaucoup. Une équipe qui a 52 points Montréal, l'autre a 51 points. Mais c'est deux équipes où, après le match des étoiles, on dit souvent, c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Et puis, ces deux équipes qui, depuis le match des étoiles, en arrachent terriblement. Et souvent, ces jeunes équipes-là, souvent, après ce fameux match des étoiles-là, on frappe un mur. Et puis, ça devient très difficile. Et après là, la prochaine étape où ça va être difficile, ça va être après le fameux 8 mars. Là, ça va être difficile dans le sens que il y a des chances que les Coyotes se débarrassent d'une couple de joueurs, des Jason Zucker, des Matt Dumba, peut-être un Karel Vejmelka, le gardien de but. Donc après ça va être beaucoup plus dur. Il va rester à peu près 18-19 matchs après le fameux 8 mars. Et ça va être pénible. Là, c'est ce que moi j'appelle tout le temps le décompte doit amorcer. C'est qu'à tous les joueurs, à toutes les fois qu'on joue, les joueurs, bon, ben, on fait une marque sur le calendrier. Une de moins. Une de moins. Une de moins. Une de moins. Puis ça, là, tu fais ça pendant un mois de temps, c'est long à maudit.
Puis en plus, les gros, quand tu tombes sur les grosses équipes, ben là, c'est des grosses équipes qui sont pactées. Parce que là,
oui, puis ils cherchent soit à faire les séries ou à améliorer leur place au classement.
Non, c'est ça. On dirait que l'écart entre les riches et les pauvres, ça grandit encore plus rendu là, parce que là, tu sais, telle équipe qui est bonne, on va dire les Bruins, ben là, c'est les Bruins plus
deux
joueurs qui ont été cherchés à date limite. Donc,
c'est drôle quand même, parce que là, on parle d'une situation qui est quasi similaire en celle du Canadien et des Coyotes de l'Arizona. Du côté des Coyotes de l'Arizona, t'en parlais, je pense qu'on est conscient que ça va un peu nulle part. L'organisation Tomolette Arena, on veut changer de place. Tandis que du côté du Canadien, malgré 5 défaites de suite, on est rempli de positivisme. On est rempli de positivisme, puis on dit, mon Dieu... Écoute, quand Martin Saint-Louis a dit dans le point de presse, puis Simon-Olivier, t'étais là, juste nous dire comment Martin l'a amené, mais tu sais, les 5 derniers matchs, 5-6 derniers matchs, je pense que c'est la meilleure séquence qu'on a eue sur la patinoire et on n'a pas été récompensé. Fait que donc, malgré les défaites, Saint-Louis et l'organisation sont convaincus que cette équipe-là a offert son meilleur jeu de l'année. C'est-tu bien ça qu'il a dit?
C'est ça qu'il a dit, puis je crois que ça risque de choquer des gens, mais il a raison. C'est-à-dire... Les résultats, on les connaît, là. C'est-à-dire qu'au cours des ces 5 défaites de suite et 7 en 8 matchs, donc c'est évidemment pas, en fait, le résultat, une bonne séquence, mais c'est vraiment la dualité entre le processus, qui est le mot que tout le monde utilise en sport, et le résultat, elle est là. C'est-à-dire que le Canadien, j'ai fait la compilation depuis 7 matchs, donc commençant la défaite contre les Blues de Saint-Louis, qui en a été une assez cinglante, comme on se souvient.
Sans appel,
le Canadien, pendant cette séquence-là, a été une des meilleures équipes de la Ligue nationale pour la possession de rondelles, pour justement le jeu défensif, et a été une très, très bonne équipe à 5 contre 5. a subi 6 défaites sur 7 dans cette séquence-là. Donc, il y a clairement quelque chose qui n'a pas marché. Les gardiens de but ne sauvent plus leur équipe présentement. Les attaquants peinent à marquer des buts, c'est-à-dire que les chances sont là, ils ne les convertissent pas. L'avantage numérique a refroidi. Le désavantage numérique au cours de ces 7 matchs-là, c'est 60% d'efficacité. Je ne sais pas si le mot efficacité est encore bien utilisé.
D'accord,
ici,
juste.
En tout cas, ils ont seulement écoulé 60% des punitions sans but. Donc, les problèmes sont encore multiples. Martin Saint-Louis a déjà donné l'image du il y a comme des tuyaux qui coulent, puis à un moment donné, t'as juste deux doigts ou deux mains pour les boucher, puis ça coule ailleurs. Clairement, c'est ça, mais d'un point de vue global, à 5 contre 5, et j'ai souvent été un apôtre de mettre l'importance sur le jeu de 5 contre 5, le Canadien, effectivement, sort d'une bonne séquence. Martin Saint-Louis a raison, mais il y a le reste. C'est-à-dire, il y a 10, 12, 15 minutes par match qui, présentement, leur font très mal, et les erreurs individuelles qui leur font aussi très mal. Et on peut pas faire comme si ça n'existait pas, parce qu'effectivement, il faut qu'ils les corrigent, ces erreurs-là et ces problèmes-là. Mais oui, c'est vrai que le Canadien aurait mérité un meilleur sort depuis 2 semaines.
OK, mais c'est une facette, le 5 contre 5. Puis moi, je comprends qu'on mette une brique de positif par-dessus une autre brique de positif en disant 5 contre 5, on se débrouille bien, mais c'est pas la totalité du match.
Non.
Tu sais, et veut pas, je comprends qu'on veut développer, mais on est dans une business de résultats. La Ligue nationale de hockey, à moins que je me trompe, la dernière fois que j'ai constaté, c'est une business de résultats. Et quand tu n'arrives pas à combler toutes les facettes en même temps, les amalgamer en même temps pour connaître du succès, c'est là que tu dis, à travers 5 défaites de suite, qu'on connaît le meilleur, on connaît notre meilleur moment de la saison.
Mais, ouais, c'est spécial.
Attends des minutes. Stéphane, je veux t'entendre. Vas-y. Là.
Mais le pire, c'est que je suis d'accord, moi aussi, c'est plate, là, mais je suis d'accord avec ça parce que depuis le retour de la pause, ils ont joué 9 matchs. Il y a deux défaites qui ont été cinglantes là, contre les Rangers puis Saint-Louis, là, où ce qu'on a accordé 7 buts chaque. Mais j'ai remarqué à part de ces matchs-là, on a baissé le nombre de lancers contre la plupart des matchs en bas de 30. Et puis même un match contre Anaheim, 13 lancés, on se rappelle le blanchissage de Primo là, qui a fait avec les deux mains dans le dos. Et puis on joue, c'est vrai qu'on joue mieux, mais il y a tout le temps ce mot juste de 10-15 minutes par match où on casse. T'sais, on disait souvent avant, on plie, mais on casse pas. Mais là, on casse, puis ça nous coûte le match. Mais ça, c'est la profondeur. T'sais, on voit là, que là, la profondeur nous fait mal. On est fragile. Le fameux... Puis on dit souvent, on parle de l'indiscipline. On va tout le temps avoir de l'indiscipline. Toutes les équipes vont prendre des punitions à chaque match, chaque équipe. Là, mon problème, moi, c'est rendu plus le désavantage numérique que l'indiscipline. Et c'est là que tu dis, bon, mais tes gardiens de but, là, dernièrement, sont ordinaires. Et puis, encore une fois, je veux pas commencer un débat là-dessus, mais les gardiens de but, depuis la pause du match des Étoiles, ont eu deux bonnes performances pour moi, là. Deux bonnes. Ben, Primo, on peut dire. On peut dire que c'était bon parce qu'il n'a pas donné de but, là, mais il y a eu 13 lancés. Montembeau, le premier match en revenant contre Washington avait été très bon. Après ça, les gardiens de but, pour moi, sont pas mauvais, mais sont ordinaires. Et puis, on l'a tout le temps dit depuis 2 ans, si tes gardiens de but sont juste bons, on ne gagne pas.
Là, après la défaite face aux Devils du New Jersey samedi, Martin Saint-Louis, à point de presse, a dit il faut que ça flippe. Il faut que ça flippe. C'est le fun là, de dire ça, il faut que ça flippe. Je sais pas si tout ça est arrivé après le texte de François Gagnon sur le RDS.ca qui disait...
Je me suis posé la même question.
Être complaisant dans la défaite. Et puis là, on a comme le discours a changé après le match en disant... Tu sais, on comprend qu'on joue bien, mais tu sais, là, il faudrait un petit peu plus de résultats. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'est modéré davantage. Là, on est venu peut-être un petit peu plus avec l'aspect soyons calmes, il y a un développement potentiel à venir. Mais après le match, j'ai dit, tu sais, il faut que ça flippe. Là, Guillaume, je te pose une question. Faut que ça flippe. Qui peut flipper?
Ben, premièrement, il faut regarder ceux qui ont la capacité de flipper. Donc, tu sais, je ne mettrai pas, par exemple, Tanner Pearson là-dedans parce que de ce qu'on voit aller, je pense pas que c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de ressources encore en lui à offrir. La réponse très évidente, Josh Anderson, je pense que s'il convertit quelques-unes de ses chances, ben déjà, tu commences à avoir un résultat plus...
Le 2 contre 1.
C'est
quand il shot à côté du filet.
Oui, puis pas juste un petit peu.
C'est ça, c'est pas un cheveu.
C'est ça.
Il a shoté à côté du filet.
Ouais. C'est ça.
échappé, le poteau. Bédaine, si tu shot dans Bédaine, au moins t'as pogné le filet. T'étais assis le gardien. Ouais,
puis le poteau sur l'échappé, ça va aussi. Je veux dire, bon, le poteau, ça va. T'es
la
proche,
fameuse confiance.
Ouais, exact, exact. Donc, tu sais, je pense que lui, c'est le choix le plus évident. Sinon, Alex Newhook, on parle de la séquence justement depuis la pause. Lui, Alex Newhook a joué 8 matchs depuis le retour de la pause, vu qu'il avait raté le premier match. 3 points, 8 matchs, mais j'ai l'impression qu'à l'œil, il joue mieux que 3 points, 8 matchs. Puis d'ailleurs, j'ai même été surpris de voir son total de points parce que j'ai l'impression qu'on le voit quand même plus offensivement. Alors lui, c'en est un peut-être aussi qu'éventuellement, il y a des résultats qui viendront parce qu'il offre quand même pas du vilain jeu. Il y a beaucoup d'occasions, tout ça, 18 minutes par match. Donc, je pense que c'en est un qui éventuellement pourrait avoir plus de résultats concrets.
Stéphane, est-ce que tu vois quelqu'un qui doit flipper davantage? Parce que là, on a parlé dans le dernier balado, on a parlé de Brendan Gallagher. Écoute, il a joué quand même un bon match. A marqué un but, mais souvent, on va excuser une multitude de choses lorsqu'un joueur marque. Mais il a joué un bon match. Avec Josh Anderson, ils ont été quand même impliqués. Ouais. Jack Evans, qui était là avec eux autres, je pense. Qui peut flipper tant que ça chez les Canadiens,
ben moi, Jérémy? Je pense que c'est plus... je pense que c'est plus facile de dire tout le monde, sauf le premier trio, puis Madison, toutes les autres, c'est très, très, très discret offensivement. Et puis, c'est toute cette gang-là. Puis on vient d'en parler, les gardiens de but sont juste bons. Puis dans la Ligue nationale, j'ai tout le temps dit, quand les gardiens de but sont juste bons, mais tu gagnes pas. Et puis encore une fois, on va blâmer le Moses, parce que là, on est revenu vraiment à la rotation à trois. Là, on est revenu à ça. On n'est plus dans les séries éliminatoires. La période des échanges s'en vient. On est revenu à la vraie rotation à trois. Et puis, faut que les gardiens de but flippent. Puis tout le monde, sauf le premier trio et Madison, faut qu'ils flippent. Et puis, un gars qui était bon, c'était à Piqué là-dessus. Il flippait souvent le puck dans la zone neutre quand il était dans la défense. Fait qu'on manque Piqué pour flipper. on l'appelait souvent Flipper parce qu'il flippait tout le temps le puck dans sa zone. Tu ne casses pas la tête. On remet ça dans la zone neutre.
Ah oui, on y allait ça chercher au moins. Ben non, il attendait en arrière.
Ouais, ben là, ça, c'était une bataille un contre un pour récupérer un rondelle dans la zone neutre. Mais Piqué, c'était pas compliqué. On est dans notre zone. Il y a de la pression, je flippe ça au centre.
OK.
Flipper.
Mais c'est fou parce que, dans le fond, là, on va se parler pendant encore toute la saison, puis on va se parler jusqu'à la date limite des transactions, puis après, on va se parler jusqu'au 1er juillet au balado sortie de zone. Mais l'histoire du Canadien de Montréal, si vous disiez Martin Saint-Louis, il aurait juste à se tourner de bord et dire allez voir Kent Hughes. T'sais, honnêtement, ce club-là a pas de profondeur. T'as beau dire faut que ça flippe, faut que tu veuilles. Mais c'est parce que si t'as pas de profondeur, t'as beau faire ce que tu veux, tu vas avoir le même résultat tout le temps, là. C'est ça l'histoire.
Ouais. Guillaume. Ben, je disais,
ils sont pas.
Chicanez-vous, on est chicanez.
Non, mais j'allais juste dire, cela dit, je pense que c'est là que le mandat de l'entraîneur et du DG rentre en contradiction, c'est-à-dire que le Canadien, à l'étape où il y en est, et pas à l'étape où justement où tu ajoutes de la profondeur, où tu vas nécessairement chercher de l'aide. Clairement, dans le grand plan des choses, on semble pas être rendu là. Alors, tu iras pas sacrifier des ressources pour simplement avoir une ressource pour boucher un trou puis permettre à l'équipe de finir l'année à 8 points des séries plutôt qu'à 14
gars,
points des séries.
Selon moi, Guillaume, il y a des gars qui commencent à être impatients. Honnêtement, là, je voyais Suzuki, là, tu sais, les gars, ils veulent à un moment donné que ça commence à marcher, là, parce que c'est cool, c'est le fun, on comprend, c'est un processus, c'est beau, là, mais à un moment donné, il faut que ça marche. Fait que donc, là, les yeux seront tournés sur l'organisation, sur la direction pour dire qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer cette équipe-là. Moi, je pense pas qu'ils peuvent passer une autre saison comme ça à tourner dans la boîte, là. Je pense que ça va être difficile. C'est mon Olivier.
C'est le sentiment, moi aussi, que j'ai depuis, peut-être les deux matchs, c'est ça, il faut dire que je les ai suivis sa route à Pittsburgh pour New Jersey, fait que je les ai vus souvent. Mais, on s'entend, il n'y a pas de joueur qui a fait de sortie tonitruante ou qui a jeté l'organisation sur l'autobus, mais on le sent, tu sais, c'est perceptible, surtout après les matchs quand justement les émotions sont élevées. Brendan Gallagher l'a dit après le match au New Jersey, tu sais, éventuellement, ça va prendre des résultats, puis je pense qu'il prenait le blâme de ça aussi, tu sais, de dire, faut qu'on soit meilleur que ça. Et c'est ça, enfin, je sais
et
pas combien
pas
de temps.
Jake Allen aussi,
Jake Allen avait parlé, ça avait dit. Mais il disait encore sereinement de dire les derniers matchs. C'est ça l'histoire de nos derniers matchs. On n'est pas loin, mais on ne réussit pas à passer à la prochaine étape. Il faut qu'elle arrive la prochaine étape. Puis, j'insiste, je pense pas que les joueurs se servent des médias pour passer des messages. Je pense que tout le monde est dans l'organisation se parle. Mais j'ai de la misère à voir une autre. Je ne dis pas qu'ils feront les séries la saison prochaine, mais j'ai de la misère à voir une autre saison au cours de laquelle l'organisation aiderait pas plus, justement, comme tu disais, Martin Saint-Louis. pour mieux l'outiller, parce que présentement, t'as raison, derrière le premier trio, de la profondeur, il n'y en a pas. Mais néanmoins, et je pense qu'il y a des choses qu'on dit flipper, et probablement tard dans la saison pour justement flipper, mais le désavantage numérique, ça a été un problème le jour 1 de la saison, et on a 58 matchs de jouer, et c'est encore un problème. Ça fonctionne pas, en désavantage numérique, puis tu sais, je vois pas vraiment la suite, c'est quoi si on change pas l'exécution ou la manière, le système de jeu, parce que le problème, je suis pas sûr que c'est juste le personnel. Clairement, on est souvent désorganisé. Les autres équipes ont une longueur d'avance. Clairement, ils lisent mieux les avantages numériques que les avantages numériques lisent l'avantage numérique, et ça coûte un but par match minimum. Alors juste là, le Canadien dans une défaite serrée, mais tout à coup, c'est peut-être un match qui va en prolongation, c'est peut-être un match que tu vas gagner, mais quand ton unité des avantages numériques donne un but à tous les matchs, au moins un, ben, si tu pars ta soirée à moins un, c'est fatigant. Mm-hmm. Fait que ça, je sais pas, comme je disais, je sais pas si on a la capacité de flipper, de revirer ça bout pour bout, mais il faut qu'il y ait de l'énergie qui soit consacrée à ça, et que Kent Hughes, probablement plus pendant l'été, fournisse peut-être un ou deux joueurs, un ou deux spécialistes de plus à Martin-Saint-Louis pour aider l'équipe dans le futur.
C'est qui s'occupe du désavantage, Letoski?
Letoski et Romina, c'est les deux.
C'est Stéphane, ouais.
C'est les deux, mais Letoski est également impliqué. Là,
parce que écoute, puis Stéphane, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai toujours pensé, puis je pense qu'on en a déjà parlé sur le balado, tu sais, des avantages numériques, c'est pas une question de talent, c'est une question de dévouement. Faut que tu sois prêt à...
D'engagement, ouais, exactement.
Il faut que tu sois prêt à manger une shot d'un dent. Écoute, c'est, évidemment, c'est l'image, là, mais tu sais, il faut que tu sois prêt à te sacrifier. Si t'es pas prêt à te sacrifier, je veux dire, pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas ça là? Si tu dois avoir quelqu'un qui a le goût de se sacrifier un peu, à la limite, ma pizzetta, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui a le goût de se sacrifier là-dedans, Stéphane?
Oui, ça, c'est une grosse partie. Alors, premièrement, moi, toutes mes années, on m'a dit que ton meilleur joueur sur les avantages numériques doit être ton gardien de but. Ça, c'est la première des choses. Et puis, nos gardiens de but sont probablement pas assez dominants. Et la deuxième chose, c'est l'engagement. Ça prend pas de talent pour avoir un engagement. Tu as totalement raison, Jérémy. Ça, c'est très important. Mais je pense qu'on l'a, l'engagement. C'est ça qui est le pire, c'est qu'on essaye de bloquer des lacets. Mais moi, j'aime... Et la troisième raison pourquoi tu as de la difficulté sur ton désavantage numérique, c'est que tu joues peut-être pas de la bonne façon.
Ouais.
J'aime pas la façon qu'on joue. On est passif et souvent, on c'est tellement facile, pour en parler souvent, de s'installer devant ce filet-là. J'aime pas le fait que nos défenseurs, on focus seulement sur une chose, c'est bloquer des lancers au lieu de se mettre entre le filet et le joueur adverse qui veut entrer au filet. Et s'il entre au filet, de s'occuper de ce joueur-là devant le filet en s'occupant de son bâton et en soyant certain qu'il ne fera pas des retours ou qu'il ne fasse pas dévier des rondelles. Mais non, à place de ça, on est tellement hypnotisé par la rondelle, puis on est tellement focusé sur seulement bloquer des lancers. J'avais une bonne discussion à matin avec un entraîneur des gardiens de but dans la Ligue Junior du Québec. Et puis, sur justement, les fameux lancers bloqués, comment que c'est overrated. Et puis, nous, dans le temps, c'est que nos gardiens de but prenaient le côté rapproché et le défenseur, eux, essayaient pas de bloquer des lancers. Ils bloquaient seulement le lancer qui était sur le côté éloigné. Donc, c'est une façon de jouer que le Canadien probablement aime pas. Mais moi, c'est ça. C'est ton gardien de but doit être meilleur. L'engagement doit être bon. Je pense qu'il l'est, l'engagement. Mais la façon qu'on défend, j'aime pas.
OK, attends, je veux juste résumer. Donc, ce que tu dis, toi, c'est le gardien prend la shot qui est direct devant lui, c'est lui qui prend la shot. Bon, ça, c'est un. Deuxièmement, s'il y a une transversale opposée, ça va être le défenseur qui va aller tenter de bloquer une shot. Sinon, laisse la shot, puis prends le retour, prends le gars, prends le bâton, occupe-toi de ce qui se passe devant le filet.
Exactement.
C'est pas ça qu'on voit, là.
C'est tellement facile devant le filet, c'est incroyable. Je peux bien croire que les règlements ont changé. Là, on peut plus donner du Sherwood comme ça c'est déjà fait, mais il y a quand même une façon d'au moins s'assurer que tu as le bâton de l'adversaire pour éviter les fameuses déviations et ou les courts rebonds que l'adversaire peut prendre souvent facilement parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe devant le filet parce qu'on est hypnotisé par la rondelle, on est focusé sur sûrement bloquer des lancers. Puis la plupart de ces lancers-là, c'est des lancers que les gardiens de but, ton gardien de but va arrêter. Donc, oui, on sauve des buts de temps en temps. Oui, David Savard sauve des buts de temps en temps. Mais sur une longue, si tu te fais le total, je pense que tu nies plus souvent ton gardien de but que tu aides.
OK.
Et puis ça, là, faut faire attention à ça.
OK. Là, il y a une chose, souvenez-vous, en début de saison, puis là, je sais que je ramène une vieille affaire du tournoi de golf du Canadien, mais je pense que c'est Jeff Gorton qui disait on veut jouer des matchs significatifs au mois de mars. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mission, échec total là-dessus, ce n'est pas le cas. Sauf que quand tu as un club qui perd, je suis l'impression peut-être qu'on faisait ça juste dans le hockey mineur, là, mais habituellement quand on connaissait une mauvaise saison, tu as tout un coach qui arrivait avec des objectifs venus d'un peu nulle part. T'sais, on va se créer nous-mêmes nos propres objectifs. Si on parle d'un match significatif, honnêtement, le match contre les Coyotes de l'Arizona est un match significatif pour moi. Tu as une séquence de 5 matchs, le club le côté en a perdu 12 de suite. Si tu gagnes pas ce match-là, tu t'en vas jouer après contre la Floride, Tampa Bay, Nashville, Caroline, Toronto. Honnêtement, là, si c'est pas significatif là, c'est artificiel, mais si ça ne l'est pas là, ça ne le sera jamais. Si tu as perdu 5 matchs, en perds un 6e, écoute, je sais pas, Guillaume, mais ça peut débarquer pendant un bout de temps.
Non, ça c'est sûr. Puis tu sais, c'est drôle, je suis retourné voir l'an passé pour voir comment le Canadien s'en était tiré aussi à ce temps-là de l'année. Et il y avait un segment de calendrier qui a retenu mon attention. Le Canadien affrontait Vegas, la Caroline, Rangers, Devils, Colorado. C'était en mars et ça avait été 5 défaites de suite. Il n'y a pas de miracle à faire le rendu à ce temps-là de l'année. Donc, effectivement, pour le moral et tout ça, c'est ça. Tu n'as pas le choix d'aller chercher ces victoires-là qui sont accessibles. C'est drôle ce que tu dis au sujet des matchs significatifs. Hier, j'écoutais le match, je sais qu'on va en parler tantôt, mais le match Chicago-Détroit. Mm-hmm. Et à un moment donné, le commentateur disait, tu sais, pour les Blackhawks, là, ce match-là, c'est comme un match de série pour eux parce que justement, c'est le retour de Kane puis tu as le retrait de Jean-Denis. Mm-hmm. Donc, tu sais, de temps en temps, même dans une fin de saison où tu n'as plus d'enjeu, de temps en temps, tu vas avoir de ces matchs-là où est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial. Et dans le fond, c'est ça, l'équipe n'a pas le choix c'est ces matchs-là, finalement, que tu essaies d'aller chercher pour valoriser ta fin de saison. Donc, tu sais, c'est pas juste à Montréal, disons, qu'on a ces discussions.
Hey, je veux savoir, Simon-Olivier, tu es au point de presse de Martin Saint-Louis. Est-ce que tu sens, un moment donné, qui veut en créer de ces moments-là où on était juste aujourd'hui. J'ai écouté le point de presse, j'ai l'impression qu'on était juste à dire, ben finalement, on n'est pas si pire que ça. Mais est-ce que tu sens qu'il veut en créer des défis à l'interne un peu?
J'assume qu'il y en a, mais j'ai pas senti ça aujourd'hui dans ce qu'il a dit. Puis j'ai pas senti non plus que c'était juste pour justifier ce qui se passe pas. Je pense qu'il voulait apporter un éclairage justement sur cette séquence négative-là. Puis complémenter, comme tu disais tantôt, l'espèce de changement de ton entre ben on mérite mieux puis on mérite mieux, mais faut que ça se passe. Fait que c'est vraiment après j'ai senti plus après la défaite de samedi au New Jersey cet appel-là à dire là c'est le temps. Aujourd'hui, on était plus dans la pédagogie, dans justement, on fait les bonnes choses, mais il faut être dans le bon état mental en deuxième période, etc. Puis c'est tout vrai. Mais non, je pense j'ai pas. En tout cas, puis encore une fois, ce qu'il dit à ses joueurs, c'est pas seulement ce qu'il dit aux médias. Là. J'ai pas senti ça dans ce que nous disait à nous, en tout cas.
Stéphane, penses-tu qu'à l'interne, ils vont serrer ça un peu?
Ben j'espère. Puis il en a parlé un petit peu à midi, hein, quand il disait nos standards sont plus hauts que vous pensez. À l'interne, nos standards sont hauts. Et je suis content d'apprendre ça parce que moi aussi, j'ai l'impression que souvent, devant les médias, c'est souvent, OK, ouais, je suis content, on progresse. Oui, 5 minutes que j'ai pas aimé dans notre match. Hey. Mais j'ai aimé notre première période, j'ai aimé telle affaire. Mais le fait qu'ils disent que nos standards sont plus hauts que qu'est-ce que le monde pense, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis quand tu dis match significatif, oui, ça en est un. C'est un match important dans le sens que tu gagnes pas demain, puis tu t'en vas sur la route, puis ça va être difficile. Tu peux te retrouver avec 10, 11, 12 défaites en ligne. Et tu veux, c'est pesant pour les joueurs. Tu veux pas ça. Tu veux absolument couper ça demain, puis dans le pire des pires, mais à un moment donné, tu vas te retrouver avec 5 défaites en ligne. Si tu gagnes demain, tu retournes, t'en vas sur la route, puis tu dis si t'es gagnes pas, mais au moins, ça sera pas 12 défaites, ça va être 5 défaites en ligne. Et ça, c'est important dans la tête des joueurs de casser cette séquence-là parce que ça devient très pesant. Puis même si tu joues bien, même si le Martin il est positif, puis on a joué un bon match, puis mais maintenant, il faut que tu gagnes dans la tête. Peu importe, là, je pense que ça serait mieux gagner demain en jouant un match pourri que perdre en jouant un match incroyable.
Ben, je suis d'accord avec toi.
Je vois ça un peu comme un marqueur qui se cherche. C'est ça. Des fois, un mauvais but en regardant pas, qui rebondit sur 3 patins, c'est ça que c'était lui.
Exactement. C'est pareil comme un gardien de but, comme une séquence de défaite. À un moment donné, même si t'en donnes 10, au moins si t'as gagné la game, ça fait du bien de dire
attends, tu parles de qui? De Jake Allen, là? Oh, je suis méchant. Hey, Stéphane, durant que t'es là, permets-moi de recycler un vieux sujet. OK, je fais ça rapidement avant qu'on fasse une petite pause. Je recycle un vieux sujet. Dans le dernier balado, on s'est parlé de l'opportunité potentielle d'avoir des gardiens de but numéro un, peut-être de disponibles à la date limite des transactions ou durant l'été, on ne sait pas. Et le Canadien va affronter Nashville. Il y a un Saros qui est là et on dit qu'il serait disponible. Askarov, qui est dans les mineurs pour Nashville, on veut peut-être lui faire de la place. Est-ce que le Canadien devrait regarder ça du côté de Saros et dire, regarde, on a peut-être besoin d'avoir deux bons gardiens comme les Bruins de Boston ont?
Ben écoute, je pense qu'avec un Saros, c'est un Saros demain matin là, ou l'année prochaine ou cet été, je pense que tes chances de faire les séries sont bonnes parce que tu as un vrai numéro un. Et puis, peut-être qu'on a un vrai, mais on ne sait pas parce qu'il n'a pas joué le nombre de matchs de numéro un en parlant de Sam Montembeau. Ben, je pense que ça pourra faire une différence, mais je ne sais pas si le Canadien est rendu là dans son plan de construction ou de reconstruction, d'aller chercher ce gardien de but-là qui peut faire la différence. Je ne sais pas s'ils sont rendus là. Et c'était une mot juste de bonne question. J'en ai parlé la semaine passée avec notre ami Michel Tremblay. Puis encore là, je ne sais pas. Il va coûter cher parce qu'il n'est pas vieux. Là. Il est quoi?
29 ans.
Mais c'est ça. Fait qu'il reste encore 4-5 très bonnes saisons dans le corps. Mais je sais pas si on est rendu là.
OK, mais si on n'est pas rendu là, on est rendu où? Tu sais, veux dire, c'est pas à base, c'est pas à fondation d'un club, ça?
C'est certain, mais dans une couple d'années, on va écrire là. Mais écoute, c'est un passé si bien, mais il va coûter cher. Je sais pas si on est prêt à payer ce prix-là rendu aujourd'hui.
OK, parfait. On va s'arrêter quelques instants. Pour retour, on va se parler de Matt Rampe des Rangers de New York. Il est gros, il est grand, il est fort, mais il a mangé une mornif.
Ça n'a pas été
magané. Il est magané. On en parle au retour. Restez là.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 40, avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Larange et Stéphane White. Les gars, je vais vous parler de Matt Rampe des Rangers de New York, qui c'est un gros bonhomme. C'est quoi, 6 et 8, 240 quelques livres aux alentours, là?
6-7, 241.
Bon, voilà.
Un gros monsieur,
un gros bonhomme qui joue pour les Rangers de New York, qui a collecté son premier point, je pense, tout récemment, mais qui est allé de combat fulgurant face à Nicolas Deslauriers des Flyers et Mathieu Olivier des Blue Jackets de Columbus. Je veux juste votre opinion, parce que là, ça a tourné sur les réseaux sociaux, le combat de l'année, wow, c'est incroyable. OK, peux-tu vous donner mon opinion avant, puis je vais entendre votre opinion.
Vas-y.
J'ai trouvé ça hypocrite, là, tellement hypocrite, parce que tout le monde passe la saison à dire « les bagarres, on n'en veut pas ». Et là, une bataille qui n'a pas de sens entre Rampe et Deslauriers. Combat de l'année, heavyweight, hashtag bonheur.
J'ai même vu passer, je pense, un combat de la décennie.
La décennie, ouais. Là, je suis même... Allô,
ben,
les cocos.
Si je me trompe, c'est les personnes qui ont dit que c'est le combat de la DT. Quand Chicklets, je ne sais pas comment le dire, dit que c'est incroyable, ben, je ne suis pas surpris. Là, je sais où il
J'ai vu des journalistes, des gars c'est assez sérieux qui ont dit « Oh, quelle bagarre, c'est incroyable!
Ouais, » ben, c'est en anglais, le sujet, j'ai vu que le sujet rebondit à Brossard aujourd'hui, tout ça. Tout le monde en parle. Pis, écoutez, Rampe, clairement, je pense qu'il a identifié ce qu'il doit faire, ce qu'il juge, ce qu'il pense qu'il doit faire pour rester dans la Ligue nationale, pour s'accrocher, pour se faire un nom. Alors, bravo à lui pour son courage, tout ça, mais je sais pas, tu sais, la fameuse scène de lui et Deslauriers qui se parlent pendant l'échauffement.
Il y a eu la même chose avec
Mathieu Olivier. Puis c'est comme, ça fait slap shot, là. Ça fait un peu slap shot. Tu sais, sur le site des Blue Jackets de Columbus aujourd'hui, il y avait un article sur cette bataille-là, une entrevue avec Mathieu Olivier où est-ce que, dans le fond, le rédacteur du site fait valoir que c'est ça qui a donné l'étincelle aux Blue Jackets dans le match, puis ça, puis ça fait un peu slapshot, tout ça, puis je suis pas convaincu d'être 100% à l'aise. Cela dit, ce qui m'a rassuré par rapport à tout ça, je me souviens qu'en début de saison, on avait dit que les batailles étaient légèrement en hausse dans la Ligue nationale, ce qui semble être un peu contre-intuitif. Je suis retourné voir, par exemple, les chiffres à jour et La tendance générale est quand même encore à la baisse cette saison par rapport à, aux deux dernières années. Alors, en ce sens-là, c'est bon. Visiblement, c'est pas nécessairement un fléau pour autant. Seulement, on en parle peut-être plus de ce cas-là parce que ça a été des bagarres spectaculaires à chaque fois. Là.
OK. Simon-Olivier?
Je trouve que c'est un peu un anachronisme, ce gars-là. Dans le sens, en fait, non, pas juste ce gars-là, mais la manière dont les Rangers l'utilisent. Parce qu'il y a son temps de glace, donc les cinq matchs qu'il a joué, est-ce que 5 matchs de Ligue nationale? Premier match, 4-26. Deuxième match, 5-08. Troisième match, 13 secondes, parce que c'est le match où il arrache la tête de Nathan Bastian et a été expulsé. 5-16, 4-58. C'est un joueur qu'on utilise 5 minutes par match et qui se bat.
C'est des temps de glace des années 2000.
Exact. Ouais. C'est Gino Ojik, c'est Craig Berube, c'est les gars de ces années-là. Là. Je comprends pas où les Rangers s'en vont avec ça, alors qu'ils ont une équipe clairement qui est capable de gagner des matchs. Je comprends, je renie pas l'aspect robustesse du hockey, mais un joueur comme ça qui sert à rien d'autre, on dirait que j'ai pas souvenir d'avoir. Il y aurait Ryan Reeves à Toronto qui se bat pas tant que ça.
Qui parle beaucoup, mais qui fait
pas
grand-chose.
Qui joue en bas de 10 minutes puis qui sert un peu à grand-chose. Donc, je comprends pas c'est quoi le plan des Rangers en général et pour lui. Parce que pour l'organisation, je pense, un doit s'asseoir avec lui pour dire écoute, Matt, tu peux pas te battre comme ça à tous les matchs parce qu'il y a en plus des furieux combats comme ça. Je pense que c'était contre Matt Martin, contre les Islanders. Je veux dire, c'est un joueur qui va se blesser. Là, si ça se trouve, il s'est déjà blessé. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un morceau de commotion à partir après les combats contre Delorier puis contre Mathieu Olivier. Je trouve ça inquiétant. Je trouve ça un peu malheureux de voir ça, en fait, le retour de ça. Et la Ligue nationale, c'est une ligue de tendance qui se crée parce que des équipes imitent les autres. Et là, si les Rangers devaient connaître beaucoup de succès cette saison, je me dis, ben, est-ce que c'est le retour des goons dans les formations en disant « Ah, oh, mais ça protège nos meilleurs joueurs. » on revient tout le temps au même argument. Ça protège. Quel joueur Rempe a protégé dans ce match-là en se battant contre Nicolas Delorier, qui est le bagarreur des Flyers, et contre Mathieu Olivier, qui est le bagarreur des Blue Jackets, qui par ailleurs pas un bagarreur unidimensionnel du tout. Il se joue au hockey, Mathieu Olivier. Là, donc, Mathieu Olivier et même Delorier, ça ressemble un peu plus aux nouveaux bagarreurs, entre guillemets, des gars qui vont finir la saison avec moins de 100 minutes de punition, qui vont avoir fait 10-15 points,
qui jouent un rôle,
qui sont capables de jouer dans une équipe, alors que Rempe, clairement, on n'a pas grand-chose à lui offrir de plus que de dire, ben, va casser une gueule et reviens. je trouve ça triste.
Il y a le cassé aujourd'hui, check.
Voilà, c'est fait.
Stéphane, comment tu vois ça, toi, Matt Rempe?
Ben, je vois ça. Moi, tout, j'aime ce que tu as dit, Jérémy. Tu veux dire, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Oh. Et puis, depuis une semaine, mais cibole, c'est comme rendu. La preuve, on en parle. Rendu le talk of the week, le sujet le plus hot. Le monde aime ça, les tweets. Là, on parle déjà. J'ai vu quelque part que, OK, la telle date, au mois d'avril, le Canadien. OK, on parle déjà d'une bataille avec Jack High. Et puis, non, écoute, c'est une joke. Mais le kid, on peut pas y en vouloir au kid, en quelque part. Il a 21 ans, un gros même. C'est pas Wayne Gretzky, là. Il était repêché à quoi? 6e ronde.
Ouais.
Et puis, sa seule façon de rester dans la ligue, c'est de se faire un nom comme ça. Et ça, on peut pas reprocher ça aux jeunes. C'est impossible. Il ne peut pas faire ça tous les matchs parce qu'il ne durera pas une saison. Dans une saison de 82 matchs, c'est impossible. Il va falloir qu'il prouve qu'il peut aider cette équipe-là. Et puis, le fait que les Rangers l'ont rappelé, qu'il a joué 5 matchs, mais c'est sûrement, je ne sais pas. C'est peut-être, en quelque part, on a brassé les jeunes. Il y a sûrement eu un élément déclencheur pour rappeler ce gars-là. Sinon, c'est pour jouer 5 minutes puis donner un show. Les Rangers n'ont pas besoin de ça. Le building est plein et ils sont en première position. Donc, il y a sûrement une raison. Mais le kid, il veut se faire un nom. Delorier, il donne l'occasion. Martin, il donne l'occasion. Mathieu Olivier donne l'occasion de se faire un nom. Mais un coup que ton nom est fait, tu peux y aller quand c'est le temps. Pour te faire un nom.
Moi, ce qui m'a mis mal à l'aise, puis je le répète, c'est de voir des journalistes crédibles parler avec passion de ce combat-là, puis dire, tu sais, puis ces mêmes journalistes-là, c'est eux autres qui vont prôner la non-violence, tu sais. En quelque part, il y a de l'hypocrisie, tu sais. Si t'aimes ça, puis dis, j'aime ça, puis assume les conséquences qu'il y a des gens qui vont dire, t'es un barbare, t'es un violent. Assume. Mais si tu fais ça juste pour plaire, puis à un moment donné, la vraie nature sort quand il y a des combats, moi, ça me met mal à l'aise. Je suis pas confortable avec ça.
Moi, l'autre chose qui m'a mis, que j'ai pas tant aimé voir non plus, c'était justement aujourd'hui Michael Pezzetta qui, j'ai regardé la vidéo là, des entrevues de vestiaire et Michael Pezzetta qui se faisait questionner justement au sujet du match au mois d'avril contre les Rangers, tout ça. Puis, ouais. Surtout quand on sait, maintenant, il y a quelques bagarreurs au fil des ans qui ont quand même raconté leur vie puis qui ont raconté toute l'anxiété qui vivait à l'approche d'un match contre tel bagarreur, tu sais. Alors, voyant ça, je ne sais pas si c'est le cas de Pezzetta, peut-être qu'il est super zen avec ça, j'ai absolument aucune idée, mais ça m'a juste rappelé ça, puis je me dis, si c'est un gars de même, si ça, tu sais, si lui, ça y cause une certaine anxiété, je trouve ça plate.
C'est là que tu vois que c'est un cirque, en partant, là. Ouais. C'est là que tu vois que c'est un cirque et que tout l'aspect non-violence que la Ligue nationale veut tant à vouloir démontrer, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. On aime le spectacle, on aime les gladiateurs dans l'arène, les gens, j'ai pas vu personne qui s'est mis à pleurer parce qu'il y avait deux gars qui se battaient sur la glace. Fait que donc, il va falloir arrêter de faire semblant. La Ligue nationale de hockey aime ça, ce genre d'affaires-là. Malheureusement, c'est comme ça, encore en 2024.
Moi, je les aime, les gladiateurs dans l'arène, mais quand les combats sont arrangés.
OK, ça veut-tu dire genre...
C'était pas mal arrangé pour moi.
C'est ça,
quand tu vas te voir dans le warm-up, là, puis quand tu te jases dans le warm-up, là, ça ressemble à pas mal arrangé.
Oui, mais moi, je parlais de la lutte.
Tu vois, quand il est à côté, puis il dit, hey, le gros, il va-tu, gros? Ah, ouais, tu vas y aller? Ouais, il va-tu au début? OK, j'embarque en premier. OK, il va, gros.
Ouais.
Bon, OK, on va se parler des Jets de Winnipeg, parce que Mark Chipman, qui est le président de l'organisation des propriétaires des Jets de Winnipeg, a parlé de la baisse des billets de saison de 13 000, on est rendu à 9 500, puis tu sais, on ne pourra pas maintenir le tempo comme ça très longtemps. Je veux amener à notre conversation un élément. Souvenez-vous, quand les Jets sont revenus dans la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman avait dit à tous ceux qui étaient là à Winnipeg, t'achètes pas des billets de saison pour un an, t'es achètes pour 3 ans, tu sais, puis mais paye, puis il faut que tu nous montres que t'es là pour 3 ans. La question que je vous demande, c'est un, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là à Winnipeg, puis je commence avec Simon Olivier, puis également, est-ce qu'on donnera autant de latitude à Winnipeg qu'on en donne à l'Arizona?
Ben, je commence par la deuxième réponse. La deuxième question, la réponse est bien sûr non. On n'aura pas la latitude aux Jets. Et d'une certaine manière, je comprends pourquoi. Les Coyotes de l'Arizona, et ça va avoir l'air cynique, mais c'est factuel, ne peuvent que connaître de la croissance. C'est-à-dire que présentement, l'aréna, c'est le fameux aréna 4600. On veut croître, on veut faire mieux. Les Jets de Winnipeg, le potentiel de croissance est limité. À la base, c'est un aréna de 15 000 quelques places. C'est le plus petit aréna, à part en Arizona, de la Ligue nationale. Donc, il faut qu'il soit plein pour que ça marche. Si ça descend, ben là, après ça, tu sais, faut revenir. Le mieux que tu peux faire, c'est revenir au niveau d'avant qui était bon. Et quand je disais le potentiel de croissance, tu sais, je fais un détour. Les fameuses destinations pour de l'expansion de la Ligue nationale. Quand il était question au match des étoiles d'Omaha, de Cincinnati, tout ça, la Ligue nationale veut conquérir des nouveaux marchés, veut faire des nouveaux marchés justement pour la télé. Et c'est une des raisons pourquoi on s'acharne en Arizona, parce que c'est un gros marché qu'on veut continuer de conquérir. À Winnipeg, le marché, il existe, là. Il va pas s'agrandir. Et puis au Canada, il va pas s'agrandir parce qu'à l'ouest, t'as les Oilers et les Flames qui vont bien. À l'est, t'as les équipes de l'Ontario et le Canadien. Donc les Jets, le mieux qu'ils peuvent faire, ils l'ont fait. Fait qu'eux, faut que ce soit ça le standard. Puis c'est malheureux, là, mais je veux dire, strictement en termes d'affaires, ils sont obligés de faire ça. Alors la baisse, je sais pas si les gens ont lu l'entrevue de Monsieur Chapman avec Chris Johnson d'Athletic, c'était fascinant. Il expliquait des trucs extrêmement concrets. Et ça me rappelait en fait l'histoire des Nordiques. C'est-à-dire que partout dans la Ligue nationale, la majorité des abonnements de saison, c'est des corporations, forcément des entreprises qui payent cher pour avoir des billets de saison, pour avoir des loges. À Winnipeg, c'était la moitié jusqu'avant la pandémie, la moitié des billets de saison, c'était des particuliers. Alors c'était des gens qui, avec leur argent, s'achetaient des matchs, des billets pour 41 matchs par année. Alors forcément, avec l'inflation, avec la pandémie, avec toutes sortes de facteurs, ben c'est un marché qui est beaucoup plus fragile, qui est beaucoup plus volatile, qui fait en sorte que les gens vont se désabonner. Ou des gens, par exemple, qui ont si j'avais avec Guillaume, on se partageait des billets de saison, si une ou deux par sa job, ben ça se pourrait qu'on les ait plus billets de saison. Fait, c'est toutes sortes de petits facteurs dans un petit marché qui font en sorte que l'impact est énorme. Alors oui, la pression est grande là-bas et la Ligue va pas les lâcher. Et c'est sûr, de l'extérieur, on trouve ça injuste. C'est injuste parce que les Coyotes ont eu combien de chances puis ils vont en avoir encore combien. Mais malheureusement, Winnipeg, ils sont sous pression puis il faut falloir que, qu'elle tourne rapidement.
Ce qui est dommage là-dedans, Guillaume, c'est qu'en plus, c'est une équipe de pointe, les Jets de Winnipeg. Là. Ouais. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est une équipe de pointe. Là.
Exact. Mais cette année, oui, mais en même temps, je ne pense pas que c'est une équipe qu'on attendait là. Puis quand tu parles des particuliers, ben, je pense que c'est une autre chose. C'est que quand ta base, c'est plus des particuliers que des corporations, je pense que tu deviens également plus sensible aux résultats.
Exact.
Donc ça, c'est l'autre enjeu. Puis là, ben, tant mieux, ils causent la surprise. Mais je suis vraiment pas sûr que quand venait le temps de renouveler les abonnements de saison, je ne sais pas à quel point que il y avait un grand optimisme parmi les partisans. L'autre chose à souligner avec les Jets, je sais que ça relève un peu de l'évidence, mais c'est quand même important de le rappeler, c'est des revenus en dollars canadiens, eux. Alors, s'ils traînent de la patte, je veux dire, eux, en partant, c'est moins 25% par rapport à un équivalent aux États-Unis. Alors, si en plus, ils se mettent à tirer de la patte, c'est pour ça qu'il y a t'as quand même une certaine forme de pression que pour les équipes canadiennes de générer des revenus, parce qu'à la base, le taux de change vient couper dans une partie de ces revenus-là que tu génères pour la Ligue. T'sais. Donc là, c'est déjà que c'est un petit marché, déjà que je pense pas que le contrat de télévision locale des Jets de Winnipeg, ce soit nécessairement la vache à lait de la Ligue nationale. Alors si en plus t'as moins de revenus au guichet, tout ça, ben je peux imaginer, je peux comprendre la Ligue nationale de taper un peu du pied.
Stéphane, je veux t'entendre là-dessus, mais juste avant, Simon-Olivier, tu voulais ajouter un point?
Ben en fait, juste sur l'histoire des revenus en dollars canadiens, juste dire, la capacité de l'aréna à Winnipeg, le Canada Life Center, c'est 15 300 places. Grosso modo, c'est 5 000 places de moins, c'est presque 6 000 places de moins qu'au Centre Bell. Alors, tous les soirs, aréna plein contre aréna plein, c'est 6 000 places 40 fois par année. Okay? Fait que là, c'est des centaines de milliers de billets de moins par année et de revenus qu'on fait de moins avec une masse salariale égale à cause des règles en vigueur. Donc, on dépense autant, mais on a des revenus qui sont considérablement inférieur juste au marché canadien. On parle même pas des marchés américains. Donc, dans ce contexte-là, c'est juste des niveaux de difficulté additionnels.
OK. Stéphane, comment tu vois ça, cette situation-là avec les Jets? Est-ce que Gary Bettman attend les deux pieds sur le pouf en disant, bon, si Winnipeg s'élimine, j'ai sûrement une place aux États-Unis qui va vouloir avoir un club dans l'année nationale?
Ben, je pense pas qu'il soit rendu là, mais je suis d'accord avec vous autres pour dire qu'il sera pas aussi patient qu'il l'est avec Phoenix parce qu'en cause de la grosseur du marché. Mais j'espère que ça va se replacer pour les Jets. Puis ça, on va le voir l'année prochaine parce qu'en cette année, ils ont une bonne saison. Et puis, quand tu as une bonne saison, mais les billets de saison, ça se reflète sur l'année d'après. Et c'est certain que les Jets ont été décevants les dernières années. Et c'est sûrement la raison pourquoi il y a eu une baisse. Mais c'est inquiétant quand même parce que ça donne seulement du gaz à Gary Bettman pour dire, regardez là, ce qui se passe à Winnipeg, là, ça veut dire oubliez ça, Québec, parce que c'est deux marchés qui se ressemblent beaucoup. Ça fait rien de donner du gaz pour dire, regardez, les petits marchés au Canada, là, oubliez ça. Moi, nous autres, on y va pour les gros marchés, puis aux États-Unis, c'est là que ça se passe. Donc ça, c'est inquiétant. J'espère que ça va se replacer parce que c'est quand même un beau marché de hockey. Les partisans sont passionnés, mais c'est all about le market. Et puis, malheureusement, Winnipeg, c'est un petit marché. Et puis, pour répondre à ta question, mais je ne crois pas qu'ils vont être aussi patients qu'ils peuvent l'être avec les gros marchés américains.
À Winnipeg, moi, je ne sais pas à quel point ça me rassure, mais je trouve ça positif, c'est de voir à quel point l'organisation, dans toute la gestion hockey, est très conséquente avec leur situation. C'est-à-dire que les Jets, les échecs des dernières années ont eu moins de succès. T'sais, il y avait eu le fameux étrange été 2019 où 5 défenseurs sont partis, dont Ben Sherratt à Montréal. Avec le temps, il y a eu toute l'histoire avec Pierre-Luc Dubois, il y avait eu Patrick Laine. Il s'est passé beaucoup de choses à Winnipeg et beaucoup d'équipes auraient eu le réflexe ou auraient fait la décision de dire, bon, on reconstruit. Mais à Winnipeg, on était conscient de dire, on peut pas reconstruire. On est un marché qui reste vulnérable. On peut pas se permettre que les assistances baissent. Alors, moi, j'étais complètement éberlué qu'on réussisse à accorder un nouveau contrat à Connor Hellebuyck et à Mark Scheifele. Peut-être que Blake Wheeler, finalement, était un problème dans le vestiaire, mais ça, ce sera pour un autre, ce sera pour un autre podcast. Vraiment, l'organisation a envoyé un message clair et aux joueurs de l'organisation et aux partisans de dire, regardez, on est sérieux, on veut que le club reste ici, on veut que le club soit performant. On a fait une excellente transaction avec les Kings de Los Angeles en envoyant Pierre-Luc Dubois. En fait, c'est pas tant en enlevant Dubois quand le retour les a très bien servis. Donc, on dirait que je suis très sympathique à leur cause, puis je leur souhaite que ça marche parce que j'ai l'impression que c'est une organisation qui fait les bonnes choses pour que ça fonctionne. Mais après ça, si si c'est plus viable économiquement, mais là, ça, c'est pas moi qui décide.
J'allais vous dire, je voulais vous lancer la question rapidement, est-ce que la Ligue nationale de hockey pourrait vivre et connaître une prospérité sans avoir les équipes canadiennes? Parce que par moment, on a l'impression que Gary Bettman, c'est seulement qu'aux États-Unis qu'il veut que ça marche. Puis je me suis dit, ouais, j'oubliais que McDavid est à Edmonton, puis Austin Matthews est à Toronto.
Ouais.
Puis que le Canadien, parmi le top 3 des équipes les plus rentables de la Ligue nationale de hockey.
Toronto et le contrat de télé de Rogers.
Bon, on est correct pour une coupe d'année. On va s'arrêter. Au retour, on va se parler de Chris Chelios. C'était sa soirée du retrait numéro 7 avec les Blackhawks de Chicago. On a saupoudré du Patrick Kane par-dessus tout ça qui était là avec les Red Wings de Détroit. Ce fut une soirée tout simplement parfaite. On en parle au retour. Restez là.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Dominique Arpin.
Fait que je me suis dit, cette journée-là, je pourrais jamais avoir plus peur que ce que j'ai vécu dans le bureau du médecin lorsqu'elle m'a dit que j'avais un cancer puis que la masse était grosse comme un pamplemousse sur mon rein.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 40 avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Lorange, Stéphane White. Les gars, permettez-moi de commencer avec Stéphane parce que Stéphane, t'as été dans l'organisation des Blackhawks de Chicago. Il s'est passé quelque chose de magique, je dirais. C'était le retrait du numéro 7 de Chris Chelios qui a dit ouais. « La plus belle journée de ma vie, c'est quand j'ai été échangé aux Blackhawks de Chicago. » C'est le fun pour les partisans du Canadien. mais quand même, il était là, il a amené son équipe de l'époque. Écoute, Dennis Rodman était là, le chanteur de Pearl Jam était là. Il y avait de la vedette au pied carré. Puis il y avait un gars qui s'appelle Patrick Kane qui était avec les Red Wings de Détroit, qui était sur le banc, qui applaudissait. Écoute, c'est une soirée parfaite, malgré la défaite des Blackhawks en prolongation, mais c'est Patrick Kane qui a scoré.
Ouais, t'as raison. Quelle soirée. J'ai écouté ça, je ne pouvais pas manquer ça. C'était, écoute, quelle soirée. Chelios, tu sais, quand il dit son meilleur, le plus beau jour de sa vie, mais écoute, il faut comprendre qu'il est natif de Chicago. Hein. Et puis, c'était quelque chose. Il a eu ses meilleures années. Oui, il a gagné le Norris à sa dernière année avec le Canadien, mais il a quand même eu ses meilleures saisons avec les Hawks. Il est devenu le capitaine. Il a joué proche de 10 saisons à Chicago. Il était très, très, très aimé. Il avait son fameux bar là, à quelques pas du Madison Square Garden. Pas du Madison Square Garden, à quelques pas sur Madison.
Chicago Stadium.
Sur Madison, son fameux bar, le Chili. Sur Madison, et puis écoute, il a eu une très belle carrière à Chicago. C'était un des joueurs les plus populaires et c'était mérité hier. Hey, je regardais Chelios hier, les gars. Là. Il a 62 ans. Y a-tu l'air de ça?
C'est pas juste.
Ben oui.
Ça n'a pas de bon sens. Donc, quel bel honneur qu'ils ont fait. Les Hawks sont très bons dans ce genre de cérémonie-là. Ils font penser aux Canadiens. Et puis, je pense que c'est très mérité. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire des Hawks. Et puis, mais c'était le fun tout dans son discours quand il a parlé de Patrick Kane, qui va être l'un des prochains à avoir son gilet retiré à Chicago. Et en parlant de Kane comme étant peut-être un des meilleurs joueurs américains à avoir joué dans la Ligue nationale. Et puis, c'était le fun de voir Kane. Puis, je parle de l'âge de Chelios à 62 ans. À un moment donné, je me suis réveillé, je regarde Kaner, il est rendu à quel âge? 35 ans. Il me semble, il y a quelques années, je l'ai connu, moi, à 19 ans. Je l'ai vu arriver à 19 ans avec les Hawks. Il me semble que c'est fait quelques années de ça. Donc, c'est incroyable. Et puis, c'était le fun de voir Patrick revenir à Chicago avec cet honneur-là à Chelios. Son premier match, quel accueil des fans. Et puis, Patrick Kane, pour moi, c'est certain que son gilet, là, ça sera pas trop long après sa carrière. Il va être retiré. Un kid qui est arrivé à 19 ans, un kid qui adorait être sur la glace à tous les jours, le premier sur la glace tout le temps. Il s'offrait tout le temps pour moi à venir faire les exercices avec les gardiens de but. Puis je disais non, je veux pas te voir parce qu'il voulait compter des buts. et puis quand tu fais des exercices avec les gardiens de but, mais tu veux pratiquer telle technique, donc tu dois lancer au bon moment à la telle place. Et puis lui, il refusait de faire ça tout le temps. Donc, je disais, non, je veux pas te voir, je veux pas te voir. Il était fatiguant, il revenait le lendemain. Je peux-tu t'aider dans tes drills? Non. Il était, mais un gars, il adorait. Quel kid, écoute. Et puis hier, mais écoute, il marque le but gagnant hein, sur un échappé, un but à la Patrick Kane. Écoute, quelle soirée, les fans. Il n'y a pas un fan qui a demandé un remboursement. Puis, on n'a pas eu de bataille pour ça. Là. On n'a pas eu obligé d'avoir des batailles pour que le monde soit content. Là. C'était tout un show hier à Chicago.
Les boys, Guillaume?
Ben, c'était fabuleux. En regardant le match, moi, je me mettais dans la peau des journalistes là-bas et tu dis, c'est quand même fou de dire que t'as une soirée où le retour de Patrick Kane, là, je disais ça avant le dénouement du match, mais je me disais, le retour de Patrick Kane, c'est comme un à côté, tu sais, parce que là, t'as le retrait de Chris Chelios, qui est évidemment ton histoire principale du jour. C'est quand même fou. Ce qui est intéressant de voir aussi, au-delà de tout ça, c'est la renaissance de Patrick Kane. Là, je disais, l'an passé, ça avait pas été facile, avait besoin d'une opération, tout ça. Et, ben là, mine de rien, il est rendu à 28 points, 27 matchs. Faut quand même pas oublier, tu sais, Stéphane, tu disais, il y a 35 ans, Kane, mais mis à part justement la saison dernière, c'est un gars qui continuait quand même à produire un point par match et plus. Et là, il revient à ce rythme-là. Les Red Wings, visiblement, vont revenir en série, eux aussi. Puis ben, je pense que Kane a son mot à dire, là, même s'il a seulement joué 27 matchs jusqu'ici. Il en a joué 27 très bons. Les Red Wings sont sur toute une lancée, alors que de voir que le retour de Détroit en série passe par le retour en forme de Patrick Kane, tu sais, je pense que c'est quand même des bonnes nouvelles pour la Ligue.
Non, c'est une belle soirée.
Oui, mais juste pour finir avec Kaner, c'est l'année passée, tout le monde disait, ah, il est fini. Non, l'année passée, il a joué avec une hanche défaite. Je sais, mon frère m'en a parlé. La plupart des matchs, l'année passée, mais qu'il l'échange, c'était tout le temps, il ne pratiquait pas la veille, il ne pratiquait pas jamais parce que son hanche faisait trop souffrir. Donc, le fait qu'il ait réglé ça, c'est le Patrick Kane qu'on a vu. Puis juste pour finir avec ça, j'ai trouvé ça le fun, Connor Bedard qui dit que c'est son idole, Patrick Kane, en passant. C'est Connor Bedard qui est là, qui regarde tout ça. Connor Bedard qui a récolté une passe, son 40e point. Son 40e point à son année recrue en 45 matchs.
C'est fait Kane, concernant mon joueur quand même. Là.
Oui, mais 40 points en 45 matchs à son année recrue. Patrick Kane, son idole, à son année recrue, après 45 matchs, il y avait 40 points.
Oh, tout est dans
tout. Oui, j'ai des frissons.
Tout est dans tout, Stéphane. C'est spécial. On va faire ça va dire que la soirée était parfaite.
On va faire une série sur Netflix avec ça, c'est sûr et certain. OK, hey, je vous parle de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Je suis obligé d'y penser à chaque fois. On a réduit le calendrier de 68 à 64 matchs. Et là, je disais un peu en blague en début de balado, est-ce que les joueurs qui ont longtemps été qualifiés de soft parce qu'ils sont dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec à l'époque, seront maintenant qualifiés de quoi? De paresseux, de pas s'entraîner, de fatigués parce qu'on doit réduire le nombre de matchs. Évidemment, c'est d'ironie. Je veux, Simon Olivier, je veux avoir ton point de vue là-dessus.
Ben moi, je pense que c'est positif. Puis d'ailleurs, ça me semble être très bien reçu dans la Ligue junior, dans la LHJMQ. C'est Patrick Roy, je pense qu'il avait été très vocal par le passé à ce sujet-là pour dire il y a trop de matchs, ils n'ont pas de temps pour le développement individuel. C'était un de ses arguments historiquement. Tu sais, 68 matchs, faut savoir, la Ligue américaine, c'est 72 matchs, OK? Donc, c'est comme démesuré quand on sait qu'aux États-Unis, les joueurs au niveau collégial, au niveau universitaire, on joue quoi, une
quarantaine, s'ils se rendent loin en éliminatoire, tu sais.
Fait que, tu sais, évidemment que 68 à 64, c'est pas une révolution, là. C'est pas comme si on coupait le calendrier en deux, mais quand on est conscient de tout ce que les joueurs, tu sais, le quotidien d'un hockeyeur, là, c'est même quand t'es pas blessé, tu peux pas être au sommet jamais parce que tu subis des mises en échec tous les soirs, c'est des enjeux d'hydratation, la mise en forme de sommeil, là, c'est dans leur cas, c'est l'autobus, le voyagement, l'entraînement, l'école. Donc, je pense que chaque amélioration est positive, puis c'est vraiment un cas où ben le calendrier va pas vraiment s'en ressentir. Je pense pas que les partisans ou même les joueurs vont dire
ah, ben les gros clubs vont perdre des revenus, là, c'est sûr, ouais, et certain. Mettons les Remparts de Québec, c'est des matchs de max.
Mais imagine, Patrick Roy était le coach du club le plus profitable au Québec et c'était lui qui menait la charge là-dessus. Fait que je pense que le problème était réel, puis quand il disait ça, il pensait aux joueurs, il pensait pas justement aux propriétaires ou à l'organisation. Donc oui, moi je suis très très à bord avec ça. Puis si jamais les autres ligues sont choqués, ben qu'est-ce que je fais?
Ben regarde, on va demander. Attends, je vais demander à Stéphane, penses-tu que la Ligue de l'Ontario va emboîter le pas et réduire son calendrier à 64 matchs?
Je sais pas s'ils vont le faire, mais moi je pense que c'est une bonne idée que nous on le fasse. C'est le fun parce qu'on commence à faire des choses que les sans avoir le consentement des autres équipes. On parle des batailles, on parle le nombre de matchs. Parce que je parle souvent par mon rôle avec des entraîneurs, des gardiens de but, puis ils me disent souvent ça, qu'on pratique pas autant qu'on voudrait, spécialement les équipes dans les régions éloignées. Je pense à des Bathurst, à des Val d'Or, à des Rouyn, à des Baie-Comeau. Quand ces gars-là s'en vont sur la route, puis ils jouent trois parties en quatre jours, puis on revient à la maison, mais c'est deux jours de repos, pas de pratique, rien. Donc, c'est beaucoup de journées sans pratiquer parce qu'il y a trop de voyages. Les voyages sont longs. Au Québec, avec les Maritimes, les distances sont... ils font de l'autobus, puis pas à peu près. Donc, tout ça fait que baisser de quatre matchs, c'est pas beaucoup, mais dans le fond, ça va être beaucoup. Et puis, j'aime les boys, votre comparaison, les collèges américains qui jouent à peu près 32 matchs par année. On n'est pas dans le trouble à 64 matchs.
Je pense qu'il y a encore de la place, Guillaume, ouais, en terminant.
Ben c'est ça, ben justement, par rapport aux collèges américains, souvent, quand on parle à des Québécois qui vont jouer dans la NCAA ou des Canadiens, ils vont souvent amener l'argument, justement, « Ah oui, ben j'ai pris cette voie-là parce que j'avais besoin de plus de temps au gym, plus de temps pour m'entraîner, tout ça. » Donc, comme on disait tantôt, c'est pas quatre matchs qui vont tout changer pour ça, mais petit peu à petit peu, tu sais, il allait pas enlever 12 matchs d'un coup de toute façon, alors petit peu à petit peu, ça va peut-être permettre à la Ligue du Québec de resserrer l'écart là-dessus, puis de donner un petit peu plus un débat à ces jeunes-là qui se posent la question à savoir s'ils vont vers les collèges américains ou s'ils jouent leur hockey junior ici.
On pourrait regarder dans le 62 aussi. Moi, sincèrement, là, je pense que le 62 pourrait faire la job. Simon Levy.
Mais tu sais, on parlait de la perte des revenus tantôt. Il y a moins de dépenses aussi. Si on enlève deux matchs sur la route, par faire la run d'autobus pour une équipe au complet de Baie-Comeau à Val d'Or. C'est pas cher, les hôtels, tout ça. Oui.
Exactement. Les équipes qui font moins d'argent, je pense que c'est rentable pour eux autres parce que c'est, comme tu dis, t'as tellement raison, Simon Olivier, et ça coûte cher, les sur-routes.
Le 64 matchs, c'est arrivé au début des années 80. Le plus loin à l'époque, ouais, c'était d'aller au Saguenay. Fait que donc, c'est un peu différent maintenant quand tu te ramasses à Halifax, Cap-Breton, tout ça. C'est assez différent. Bon, ben, messieurs, c'est déjà tout pour le balado sortie de zone. Je vous remercie. Je dis un gros merci à Guillaume Lefrançois. Merci, Guillaume.
Merci, JR.
Simon Olivier Laurent, là, tu repasses plus souvent, s'il te plaît. Ça fait trop longtemps, là.
Je vais essayer.
OK. Sinon, j'appelle ta mère. Stéphane White, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, bonne semaine.
Voilà, ça conclut le balado et nous, on se parle vendredi, le 1er mars.
Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.